Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All is beautiful, le vieux c'est beau. Enfin, si on en croit notre vétéran Nicolas Martin, qui est toujours absent à tricoter des plaies dans l'NBO dans le Vercors, comme vous pouvez l'entendre. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les mardis, nous revenons sur un film de patrimoine qui ressort. Ici en salle, dans une version restaurée 4K assez sublime, il faut le dire. Et autour de cette table, toujours les trois mousquetaires habituels. Et Manon, qui est toujours là. On ne change pas une équipe qui gagne, enfin, pour l'instant. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Arthur.
Salut. Salut.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez déjà goûté le formol?
Oui, mais franchement, je sais pas si ça rentre bien dans le cadre de ce qu'on raconte.
Non, parce que moi j'en ai pas spécialement envie, mais paraît-il que c'est pas dingue. Mais surtout, je pense que c'est pas hyper digeste, voire même que ça pourrait provoquer, si ça contient des petits microbes, des petits virus, des malformations. Alors imaginez si on invitait tout un stock entier dans une rivière, et ben est-ce qu'il y aurait pas un petit poisson qui pourrait devenir plus gros et de fait commencer à bouffer les humains? Vous aurez peut-être reconnu donc The Host de ce cher Bong Joon-ho, un troisième long métrage assez remarquable sorti en 2006 et qui ressort donc chez nous en salle grâce à Jokers. Alors pour commencer, sachez que moi j'ai un lien assez important avec ce film parce que j'ai grandi en Picardie, dans une petite ville, qui est pas si petite d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, qui s'appelle Creil, et j'étais dans un lycée ZEP qui avait, et j'ai eu beaucoup de chance, une option un peu imposée à certains secondes qui s'appelait lycéen au cinéma. J'étais en seconde de l'année 2008-2009 et l'un des trois films que l'on a étudié aux côtés de Deadman de Jim Jarmusch et je ne me souviens plus du troisième, c'était The Host. De
c'était Josiane, secrétaire 40.
Non, Nicolas n'est pas là, on ne la fait pas celle-là.
Il n'est pas là, il faut bien lui rendre.
Non, justement. J'en ai marre de Josiane. Elle commence à me sortir par les trous de nez. Bref.
Est-ce que c'était pas Banane Mécanique de Jean-François Davy?
Non plus, vous commencez à m'agacer. Commence à te comprendre, Nico, si tu m'entends. Non, c'est un film que j'ai donc étudié en classe avec ma prof de français en l'occurrence. Et je crois que c'était la première fois ou l'une des toutes premières fois qu'on ait analysé un film, que je le décortiquais, que j'avais des analyses de scènes, de thèmes. Donc c'est un film qui est très cher dans ma cinéphilie et dans mon cœur. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? Est-ce que c'est un film qui est important? Est-ce que c'est un film que vous aimez particulièrement? Juste pour commencer, un petit tour de table. Sophie, pour commencer peut-être.
Moi, je pense que c'est le premier film coréen de genre que j'ai vu de ma vie, l'année de sa sortie.
C'est quand même une niche, hein, le cinéma de genre coréen.
Ouais, bah parce que j'en ai vu pas mal d'autres, même des un peu moins connus que du All Boy ou quoi, mais je pense parce qu'il est sorti donc du coup en 2006.
Ouais, absolument.
Et donc j'avais 15 ans, et je pense que c'est littéralement la porte d'entrée que j'ai eue dans le cinéma coréen tout court, parce que pareil, je pense pas en avoir vu de manière très identifiée dans ma cinéphilie avant, qui était plutôt comme beaucoup tournée vers le cinéma américain, surtout de monstres ou d'horreur ou... Donc oui, donc plutôt important aussi.
Est-ce qu'on est les deux seuls?
Alors moi, je suis très impatient du dialogue qui va s'instaurer entre nous, parce que pour moi, le film a plutôt été une grosse déçoce. J'avais eu une première rencontre avec le cinéma coréen grâce à Oldboy. Et grâce à Oldboy, grâce à la promotion qu'on avait fait Quentin Tarantino et qu'on avait fait le Festival de Cannes, j'avais découvert Memories of Murder, film précédent de Bong Joon-ho, qui avait été un choc absolu. Et en fait, je découvre avec The Host, non pas un mauvais film, attention, je ne suis pas là pour troller, mais je dirais un film où son réalisateur veut trop bien faire, et si je veux être moi, je dirais un gros film de forceur.
Wow.
Et donc du coup, je suis très très curieux d'échanger avec vous, parce que pour moi, c'est le film le plus faible de son metteur en scène. Attention, on parle d'un gigantesque metteur en scène. C'est-à-dire que si vous voulez, si moi un jour
c'est
dans ma vie...
C'est moins bien qu'Okja pour toi ?
Ah ouais, vraiment.
Ah ouais,
si, si moi un jour dans ma vie, j'arrive à faire un truc qui arrive à la cheville de The Host, je serais très fier de moi. Mais je trouve vraiment que c'est très en dessous de tout ce qu'a pu faire Bong Joon-ho.
Manon, pour toi, c'est quoi The Host ?
Pour moi, The Host, c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a un mois et demi en Projo Press, donc la version en 4K. Et je suis super contente d'avoir attendu jusque-là et de le voir au Club 13, la meilleure salle de Projo.
Meilleure salle. Les canapés en cuir, on vous aime. Pour toi, Alexis ?
Moi, c'est un peu comme Manon, mais plus radical, parce que je l'ai vu il y a deux jours pour la première fois. Donc,
ah oui, d'accord.
Voilà,
ouais.
C'était un des Bong Joon-ho qui me manquait. Ouais. J'ai poncé trois ou quatre fois Memories of Murder déjà, mais j'avais pas vu The Host. Et donc, je l'ai rattrapé pour cette émission. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal.
Ah ouais, moi aussi. C'est immense. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop l'histoire de Bong Joon-ho, quelqu'un peut raconter comment naît The Host et ce que ça raconte au moment où ça sort.
The Host, donc, c'est ce film de monstre. Alors, c'est intéressant parce que Bong Joon-ho, c'est, de par le succès de Memories of Murder, de par sa culture cinématographique, un metteur en scène qui a une conscience aiguë de comment est perçu non seulement le cinéma coréen, mais le cinéma asiatique. Et il va donc être un des premiers, non pas à amener le cinéma coréen en Occident, mais à amener ce qui aujourd'hui nous semble une évidence, à savoir le cinéma coréen critique de la Corée en Occident. Et il va maquiller ça, parce qu'il est sans doute conscient, je dis ça de manière cynique, hein, il est sans doute conscient que, encore pour beaucoup de spectateurs, la différence entre le cinéma japonais et le cinéma coréen, c'est pas évident. Et ben donc il va nous faire un faux film de kaiju, les gars, un faux film de monstre. Parce que c'est un passeport, non pas facile, mais intéressant. Puis aussi parce que il aime le cinéma de genre et que ça l'intéresse. Et donc, c'est un film hybride dans ses intentions, hybride dans comment il se conçoit comme véhicule pour aller toucher le spectateur, incroyablement intelligent et retors. Et puis, c'est aussi pour lui l'occasion d'aller travailler le style d'une manière radicalement différente de ce qu'il a fait avant. Parce que Memories of Murder, c'est déjà un film de monstre, mais un film de monstre qu'on ne verra jamais, qu'on n'attrapera jamais et qu'on ne fait que dessiner de manière impressionniste ou en hors-champ. Ici, c'est un film où la mise en scène se doit d'être puissante, emphatique, de montrer le monstre, de choisir quand elle le dévoile ou quand elle le cache. Et puis, au milieu de ça, il y a, comme souvent, sinon comme toujours chez Bong Joon-ho, une histoire de la famille, ou en tout cas une histoire du collectif qui se délite, ou qui lutte pour ne pas se déliter, mais qui va constater qu'il est voué à être détruit par sa propre médiocrité.
Là-dessus, Bong Joon-ho, il a déjà donné pas mal d'interviews, et notamment à l'époque. En fait, donc effectivement, comme tu l'as dit, il avait déjà fait un film auparavant. En fait, il a déjà fait des courts-métrages même à l'époque. Son premier long-métrage sort en 2000, s'appelle Barking Dogs Never Bite, que j'ai découvert ce matin. Et il y a des similitudes assez intéressantes avec le film, hein. Rien que sur le casting, c'est Donabe qui joue et dans Barking Dogs, et dans The Host, et aussi le grand-père de The Host qui joue en fait un espèce de gardien qui fait des potées avec des chiens errants. Bref. Et après ça, effectivement, il fait Memories of Murder. Et Memories of Murder, c'est intéressant d'en parler parce que on est en 2003, c'est son deuxième long. Son premier film, c'est une espèce de comédie satirique qui veut critiquer un peu la société, mais qui est en fait assez faible, hein, qui est super, hein, mais qui est assez faible.
Deuxième long. Il déteste qu'on lui en parle, il est très mal à l'aise quand il faut évoquer le film.
Parce que ça ne ressemble à rien dans sa filmo. Deuxième long, il s'attaque à cette histoire de serial killer qui est l'équivalent en Corée de Jack l'Éventreur. C'est vraiment une espèce de creepypasta fou.
Creepypasta, c'est une vraie, oui, c'est un vrai fait divers.
Creepypasta dans le sens où c'est devenu une figure qui dépasse le simple fait divers.
Ah oui.
C'est devenu une
vraie. Ça a été entretenu sur Internet, ouais. Ouais. L'affaire est résolue maintenant.
Depuis peu.
Il y a, avec des recherches ADN, ils ont enfin trouvé qui c'était.
Je crois il y a un an.
25 ans, c'était un mystère total.
Et c'était Jacques Chirac.
Eh merde. Et il s'attaque à ce fait-là alors qu'il est jeune, que c'est son deuxième long, qu'il a à l'époque l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma sud-coréen. Il s'attaque frontalement à ce sujet-là avec notamment un plan final qui est assez fou où l'acteur principal regarde la caméra en disant « J'espère que toi, tueur, tu me regardes ». Bref, quand il fait The Host, il a déjà fait un premier geste fort, hyper politique et hyper engagé. The Host est dans la parfaite continuité de ce mouvement politique-là. Comme l'a dit Simon, effectivement, il y a cette critique de la posture de la Corée, parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, The Host est juste une dénonciation de l'impérialisme américain.
Non, c'est une dénonciation de comment la Corée reçoit cet impérialisme.
Pour moi, c'est les deux.
Oui, non, mais ça va sans le dire. Évidemment que les Américains sont des salauds dégénérés, il n'y a pas besoin de le dire. On le sait tous.
Le fait est que c'est basé sur une histoire réelle, à savoir qu'il y avait des bases militaires américaines en Corée du Sud et qu'en 2000, il y a un médecin qui décide effectivement de jeter toutes les bouteilles de formol aux égouts et effectivement qui se sont déversés dans la rivière sans avoir aucune conséquence de ce que ça pouvait générer. Évidemment que ça n'a pas provoqué de gros monstres, mais voilà. En fait, il y a plein de références liées à la présence des États-Unis en Corée du Sud, que ce soit avec cette histoire de Donabe, parce que du coup, je me suis renseigné et il se trouve que Donabe, dans le film, joue une championne de tir à l'arc qui se retrouve un peu mise de côté parce qu'elle a raté un truc. Il se trouve qu'il y a eu une vraie histoire entre un sportif sud-coréen et un sportif américain comme ça, à peu près à ces moments-là. Et ça raconte aussi, et ça peut-être qu'Alexis pourra nous en parler un petit peu plus, quelque chose de la guerre du Vietnam, parce que le fameux agent jaune qui vont disperser pour essayer de battre la bête rappelle quand même un truc qu'on a appelé l'agent orange.
Ouais, l'agent orange, c'était de mémoire un herbicide ou un désherbant, en tout cas un produit chimique extrêmement corrosif pour les végétaux, qui a été en fait utilisé alors, à la base pour simplement justement tuer les arbres et faire disparaître les feuilles dans les forêts vietnamiennes et donc permettre à l'armée américaine qui survolait ces forêts de voir ce qui se passait au sol puisque le feuillage ne faisait plus obstruction. Bon, il se trouve que ça a aussi été utilisé pour être déversé directement sur les gens et ça a eu des conséquences extrêmement délétères pour la population locale. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant dans The Host et par extension dans le cinéma de Bong Joon-ho, c'est justement cette capacité à toujours puiser, même quand il est dans parce qu'il travaille quand même le genre, Bong Joon-ho, il est dans le cinéma de genre et pourtant il va toujours aller puiser des éléments très concrets du réel. En l'occurrence, effectivement, ce médecin légiste qui a déversé je ne sais plus combien de bouteilles de formaldéhyde dans la nature, ou des problématiques un petit peu plus larges, notamment sur la constitution sociale de la Corée du Sud, qu'il n'a de cesse de remettre en question, encore récemment avec Parasite. Donc, c'est moi un des aspects qui m'attire dans The Host, c'est justement sa capacité d'allier à la fois une espèce de grandeur monstrueuse typique du cinéma fantastique et du cinéma science-fiction avec la petitesse, et je dis ça sans aucun mépris, mais la petitesse de la chronique sociale en fait, d'être toujours à la fois dans le monstrueux et dans une histoire à hauteur d'homme. Et je trouve ça vraiment super intéressant.
À noter qu'il a expliqué qu'il avait envie de faire un film de monstre depuis très longtemps, mais que c'est en voyant Signs de Shyamalan en 2001 ou en 2002 qu'il s'est dit « Ah, mais en fait, on peut se concentrer sur la famille plus que sur le monstre et c'est peut-être plus intéressant. » Je sais pas s'il y avait quelque chose...
Non, c'était juste pour dire que tous ces genres-là, en plus, ce qui est assez fou dans ce film, c'est qu'ils sont posés limite dans les 15 premières minutes. Enfin, c'est-à-dire que ça commence genre un espèce de thriller environnemental, ensuite ça devient un peu un drame sociétal avec le suicide du gars, après une espèce de chronique familiale, et ensuite un film de monstre, il s'est passé genre 15 minutes.
Ouais, c'est assez spectaculairement. Ouais. Ouais.
Et il fait un geste assez fort, parce qu'on nous a toujours appris, là je parle à ma mère qui m'écoute et que j'embrasse, que la recette principale du film de monstre, c'est que le monstre, on le cache pas. Alien en est le parfait exemple, parce que quand t'as pas beaucoup d'argent et que tu veux faire flipper, le mieux, c'est de le cacher, de pas vouloir le montrer. Le geste de Bong Joon-ho, il est totalement opposé à ça. De dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est se concentrer sur ma famille, et du coup, je vais vous montrer dès le début.
Il est ambigu. Oui, le monstre existe, mais il est rarement le centre de l'attention.
Tout à fait.
Il y a notamment cette séquence fondamentale du père qui court, qui croit courir avec sa fille, en fait, il s'est trompé de fille, qui est une séquence au cours de laquelle, en arrière-plan, on a le monstre. Il y a toujours un jeu en permanence entre premier, deuxième et dernier plan, enfin arrière-plan, et où pour autant, on n'est pas dans le hors-champ. Mais après, moi, je te dirais, j'ai été très frappé par ce que vous avez dit et j'ai un peu envie de vous interroger là-dessus parce que moi, c'est ma grande limite avec le film. Mais vous voyez, vous avez tous dit, tiens, dans les 15 premières minutes, c'est dingue. Tiens, très vite, il se passe ça. Et vous en êtes arrivé à dire, oh, regardez, on a ce mélange de grands thèmes sur, tu vois, la santé publique, le rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut expérimenter, la famille et la Corée. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout de 15 minutes, et c'est le problème de ce réalisateur qui, à mon sens, après Memories of Murder, qui est un film profondément ambigu, là a voulu aller dans le style et aller très fort, j'ai l'impression qu'en fait, en 15 minutes, il m'a tout dit, et après, il ne fera que répéter cette structure en trois parties. Et moi, c'est le gros problème que j'ai avec le film.
En fait, je suis très très contente que ce soit vraiment ma première porte d'entrée dans le cinéma coréen, parce que ça m'a appris quelque chose, c'est que les structures des films coréens, dans la quasi-intégralité des films coréens que j'ai vus, ont des ruptures de ton vraiment brutales. Et ça fait partie de leur cinéma, des changements de musique, des changements de ton,
de vitesse,
et surtout une forme toujours d'humour, soit proche du slapstick, soit propre de l'absurde, enfin, vraiment un truc un petit
toujours
peu...
Toujours proche du corps.
Toujours. Et donc, en fait, avec The Host, c'est un film qui m'a beaucoup séduit par ses 15 premières minutes qui sont au final très accessibles, parce qu'elles font écho à pas mal de cinéma de monstres qui se sont répandues, peut-être même qu'elles venaient du kaiju asiatique ou quoi que ce soit, mais qui sont répandues dans le cinéma de monstres de manière générale et globale, ou même avant. Hein. Enfin, mais c'est juste que je trouve ça très différent du cinéma de monstres de la Hammer ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose de beaucoup plus gigantesque. Et donc, j'ai l'impression que peut-être même parce que le film commence en anglais, il y a quelque chose de « Tiens, public, peu importe d'où tu viens, la porte d'entrée est super facile. » Et en fait, comme il y a eu cette espèce de truc coup de poing, moi, je m'ennuie pas parce qu'il y a un enjeu qui reste du même tenant que ce début, qui est « Il faut aller chercher cette gamine », qui a un objectif super simple. Donc après, c'est pas tant des ruptures que des détours. Et donc moi, ça me gêne pas. Vraiment, c'est un truc qui m'a appris vraiment beaucoup, notamment toute la scène dans l'hôpital, sur l'anesthésion qui marche pas, son rapport au corps, je tombe, etc. Ce personnage très goofy, bah, c'est un truc qui m'a vraiment décomplexé sur tout mon regard sur le cinéma coréen après. Donc moi, non, ça ne m'a pas gêné, au contraire, ça m'a plutôt facilité la
vie.
Et
puis, moi, il y a un truc que je trouve assez fort, c'est que, donc, on l'a dit, hein, c'est pas un film de monstre, pour moi, c'est plutôt un film de kidnapping. Et c'est un film qui est pas un film qui, pour moi, se scinde à 15 minutes, puis le reste, mais c'est un film qui se scinde en deux, parce que c'est d'abord l'unité de la famille réunie qui va ensemble chercher cette gamine, puis il se passe un événement, et d'un seul coup, la structure narrative change, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre cette gamine qui est donc isolée et la famille qui est dispersée. Et là, du coup, la structure narrative, elle change. C'est pour ça qu'on peut pas être... Moi, je suis pas ennuyé devant. Parce que même si, effectivement, dans les 15 premières minutes, tout est annoncé, ou en tout cas, beaucoup de choses sont explorées, il y a une espèce de casser le rythme assez régulièrement et de manière assez profonde. Je sais pas si ça répond un peu à ton...
Non, mais ça m'intéresse parce que, moi, tu vois, par exemple, le problème que j'ai, c'est j'ai le sentiment que le film... Je vais, pour ceux qui nous écoutent, je vais moi-même caricaturer un peu mon propos, mais pour essayer de le rendre un peu explicite. J'ai l'impression que le film rejoue quelque chose qui pourrait être comparé un peu à Cujo dans la dramaturgie, la dimension tragique de ce qui va se jouer, mais essaye tellement de l'investir de symboles, de récits, de sous-intrigues, de mécaniques dramaturgiques, que le film en vient à durer très longtemps, alors que s'il durait 1h30, il serait peut-être brillant.
Je crois que Manon a la meilleure anecdote concernant le monstre que vous puissiez imaginer.
Oui, moi je voulais parler du monstre parce que je le trouve vraiment trop bien, ce monstre. Déjà de un, parce que en fait on peut pas le détester. Enfin, il a un espèce de côté un peu, il est un peu maladroit.
Mais
il
c'est
a
un bébé monstre, c'est un tétard en fait.
Ouais. Trop mignon. Et vraiment, je le trouve trop bien de faire un monstre comme ça. Déjà que tu révèles aussi très rapidement et du coup ça crée ce truc de on passe pas tout le film à avoir peur de ce monstre. En
ouais,
fait,
il y a plus de suspense à quoi il ressemble.
Il est révélé tout de suite et du coup ça change vachement notre rapport à ce monstre. Et là où il est quand même vraiment fort, il expliquait. Donc moi j'ai fait la masterclass, j'ai écouté la masterclass de clairement pas. Participer de Bong Joon-ho au Grand Rex animé par Thierry Frémaux. Et en fait, donc, il racontait qu'il avait un gros budget pour un film coréen de ces années-là, mais un tout petit budget pour un film de monstres et de SF.
12 millions de dollars.
Voilà, et que du coup, il a dû réduire au maximum ses plans avec le monstre et qu'au final, dans tout le film, il y en a 115. Et que du coup, je trouve que c'est... Et on n'a pas l'impression qu'il est si peu présent, ce monstre. Donc, c'est vraiment qu'il est arrivé. Enfin, sa mise en scène, elle est quand même vraiment forte à ce niveau-là. Et avec 115 plans de ce monstre, il arrive à faire ce film-là. Et surtout, ce qu'il racontait, c'est que son inspiration première pour le design de ce monstre est un acteur.
Voilà. Devinez lequel.
Ah putain,
Jean-Michel Vagin. Presque.
John Voight ?
Non.
John Voight ? Oh la vache, mais c'est pas gentil pour
c'est
John Voight.
C'est John Voight.
Je sais pas.
Oh, merde. Jean-Michel Vagin.
Non, mais c'est toujours pas un vrai acteur.
Ah, détrompe-toi.
On regarde pas la même fiction.
Un acteur américain.
Ouais.
Physiquement, du coup ?
Ouais.
Ouais.
Maintenant
que Manon me l'a dit, ça me semble assez évident, je vous le cache pas.
C'est pas Woody Harrelson, on pourrait penser, parce qu'il a quand même un truc dans sa bouche de monstre.
Quoi?
Moi, je t'en
Non, pense au bajou et à la bouche.
Jean-Michel Vagin.
Marlon Brando?
Non.
Ah putain.
Tu veux montrer la photo?
Mais non, mais il a pas de bajou, Marlon Brando, ça c'est une illusion, c'est dans le parrain, mais il a pas de bajou.
Bah oui, mais ça aurait pu être dans le parrain avec les.
Je donne ma langue au chat là.
Ah, c'est le meilleur jeu.
Peut-être celle-là, elle est bien.
Oh, Steve Buscemi ?
Oh,
mais
putain.
Non.
Oh, c'est pas incroyable comme anecdote ?
Oh mon dieu !
Ah oh, waouh ! Alors je précise juste pour les auditeurs que c'est pas Sophie qui a eu un flash venu du divin qui lui a donné le nom de l'acteur. C'est Manon évidemment qui nous a montré une photo sur son téléphone.
Particulièrement parlante quand même.
Et
au niveau
effectivement,
des dents, il y a un truc.
Il a la, ouais, ils ont la même tête.
Mais non.
Bah si, si.
Mais Steve, si tu nous écoutes et si tu es francophone, si tu es actuellement sur un camion de pompiers et que tu dis « What motherfucker, what do you mean, what the host, I'm fucking out of it !» Ne t'inquiète pas, ça n'est pas toi.
J'avoue que je
ne
sais pas s'il est au courant qu'il a été l'inspiration.
C'est une ref à Backdraft ou aux Ailes de l'Enfer ?
Même pas, c'était une ref à King of Staten Island qui m'a permis de découvrir que notre bon vieux Steve Buscemi était un pompier de formation et
c'est
qui avait une formation assez impressionnante.
Il faut savoir que Bong Joon-ho a de ouf pensé à l'allure de son monstre. Il a beaucoup bossé avec des personnes qui sont allées sur la rivière, qui lui ont demandé à ce qu'il y ait des peintures. Il y a eu plusieurs designs. Je trouve ça fou qu'à un moment, le man se soit juste dit... Sinon, je me disais, on va pas partir sur un gros lézard. Tu vois, le mec de Reservoir Dogs, lui là.
Et,
ouais.
Et pourquoi pas, genre, dans Ghost World, non
oui, personne... tu me fais Steve Buscemi avec des escalopes, quoi.
Waouh.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un aspect que je voulais qu'on discute un tout petit peu, même si je pense que la réponse est très vague et a sans doute déjà été abordée, mais il faut savoir que The Host a été un carton énorme. Mais quand je dis énorme, c'est qu'en Corée, il a été vu par 13 millions de spectateurs, et là je parle d'un pays qui en a 50 millions d'habitants. C'est énorme. C'est en, j'ai pas d'équivalent, si ce serait genre les ch'tis, mais pour c'est un film de monstre,
c'est ça.
Comment bien vous sûr. Pouvez expliquer, selon vous, que ce film-là a une résonance en Corée, à part pour le côté politique qu'on a déjà abordé, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent essayer d'expliquer ce succès? Pas facile, je sais. Hein. Bah, vous avez dit que je me la jouerais Nicolas Martin avec des questions auxquelles personne n'a la réponse.
Alors, j'ai envie de te dire, il faut toujours se méfier de « expliquons le succès ». C'est très facile à dire, tu vois. Si on savait expliquer les succès, néanmoins, si on veut essayer d'être un petit peu...
S'il te plaît.
Si on veut essayer d'être un petit peu rationnel. Voilà un film qui a... C'est con à dire, hein, mais des qualités narratives, cinématographiques, je veux dire, de fluidité, d'intensité, absolument remarquables. Déjà, point barre, on parle d'un film bien usiné. C'est tout bête, mais c'est déjà ça. Rajoutons à cela qu'il va travailler une mythologie et des symboles du cinéma, du kaiju ega, qui sont évidemment forcément connus du public coréen. Il va en plus faire ça en travaillant une critique, mais qui n'est pas une critique aveugle et débile, qui est une critique stylisée de l'Amérique. Ce qui, évidemment, va parler au public coréen. Tout ça, également, en tapant sur comment la société coréenne s'organise et se vit aujourd'hui. Or, pour le coup, s'il y a bien un truc, mais qui est assez intéressant, et qu'on peut retrouver d'ailleurs en France, n'oublions pas que le système de financement des films coréens est calqué sur celui du CNC, tout simplement, les Coréens sont à la fois capables, mais comme nous, de reproduire un système oppressant, oppresseur, et en même temps capables d'aller regarder des œuvres qu'ils questionnent. Donc voilà, ça te fait plein d'éléments qui peuvent nourrir ça. Mmh. Et puis aussi, rappelons-le, on est en 2006, et tu l'as dit, c'est un des budgets les plus importants à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est un enjeu.
C'est vendu comme un blockbuster ?
Je ne saurais pas dire, non, je vais pas prétendre te dire comment est vendu le film en Corée en 2006.
Tu es nul. Non mais je vous ai fait Nicolas Martin parce qu'en fait je vous ai posé une question faussement large, parce qu'en fait je voulais qu'on parle d'un truc très précis, c'est qu'effectivement on a beaucoup parlé de l'impérialisme américain, de comment la Corée s'est laissé faire entre grosses guillemets. Il faut savoir que Bong Joon-ho fait partie des grandes manifestations qu'il y a eu à la fin des années 80 étudiantes contre la dictature, et pour moi ça parle aussi de ça. Alors je vais utiliser un terme que j'ai pas du tout envie d'utiliser post-Covid, mais il y a une réflexion sur la dictature sanitaire, sur la réflexion sur l'hygiénisme.
Non, sur l'hygiénisme. Sur pas la dictature sanitaire. Sur l'hygiénisme.
C'est un chouï lié. Non,
alors,
que...
faut quand même préciser qu'il y a toute une histoire de potentielle contamination dans le film et qui est employée par et l'armée américaine et l'armée sud-coréenne comme un moyen d'asservir la population.
Mais parce que 2 ans avant, il y avait la grippe aviaire.
Bien sûr, évidemment. Mais le truc, c'est que faut pas oublier que Bong Joon-ho n'est pas dans une démarche documentaire. Il n'est pas en train d'imaginer ce qui pourrait potentiellement arriver. Il exagère. Il surligne quelque chose de préexistant pour nous alerter sur « attention, soyez toujours vigilants parce que si le pouvoir en place à un moment ou à un autre a les moyens de vous contrôler
et peut s'en servir,
il le fera. » et il n'hésitera pas une seule seconde. Mais c'est pas un film qui te dit ne portez pas de masque et le Covid n'existe pas. Tu vois, c'est deux choses radicalement différentes.
Mais c'est un film qui se moque des gens qui ne supportent pas la poussière, des gens qui sont à vouloir se cacher absolument et qui glorifie un personnage qui est particulièrement crade.
Mais oui, il ne le glorifie pas, non. Il ne le juge pas, il s'en moque pas.
Oui.
C'est pas pareil que le glorifier.
Bien sûr.
Ne pas le juger.
Mais il a une vraie tendresse pour ce personnage. Alors qu'il, je pense qu'il se moque un peu des hygiénistes.
Mais il a une vraie tendresse pour lui, mais il ne s'en moque pas. Mais regarde, quelques années après, quand il va faire ce film qui, je te dis pas aujourd'hui, mais quand il est sorti, à savoir Snowpiercer, a été regardé un peu comme « Se tentait-il de faire un blockbuster ?» Alors qu'en réalité, c'était un prolongement de The Host et une tentative d'aller vers la science-fiction, le genre, l'épique, marier les influences. Je veux dire, se retrouver quand même avec, mon Dieu, un des plus mauvais acteurs de l'histoire, de l'humanité,
depuis Homer.
Tu vois, Chris Evans, un type quand même qui n'arriverait pas à jouer un steak si tu le mettais dans un broyeur, quoi.
Surtout qu'il... Non mais en vrai, il paraît intéressant de le caster un an après la sortie d'Avengers.
Exactement. Et donc, tout à coup, là, il est arrivé à un niveau, me semble-t-il, d'équilibre, de lecture pop et de mise en perspective que je trouvais, de mise en abîme que je trouvais absolument incroyable. Et en fait, moi, je te dirais, pour moi, The Host, c'est un film très intéressant. C'est un film qui est encore un peu écrasé par Memories of Murder. C'est un film
Mais Memories of Murder, c'est son chef-d'œuvre. Il le dépassera jamais, même avec Parasite. On peut pas lui reprocher ça à The Host, tu vois.
Ah
c'est,
oui, mais.
C'est pas mon préféré, Memories of Murder.
Pardon, il y a des.
Memories of Murder, c'est incroyable.
Non, mais
rien ne dit que c'est son chef-d'œuvre. Le mec, il a quoi, 45-50 ans. Il est pas du tout au bout de sa carrière.
Il est maître de loin sans faux. C'est moi qui t'ai cité.
Non seulement il est pas au bout de sa carrière, mais il vient de mettre une palme d'or en virgule de sa carrière. Ça va bien se passer.
Non, mais je sais pas, il y a personne qui a parlé de Mother, mais moi, Mother, j'aime pas trop classer, mais c'est vrai qu'il y a Mother qui a été mon premier coup de cœur, même si Zios était ma porte d'entrée.
T'aimes pas classer, Sophie?
Alors si j'adore, parce que juste après il y a Snowpiercer et après juste après il y a The Host, et je pense que Parasite arrive un peu à la fin malheureusement, mais ah non, il y a Okja derrière, mais non, en fait moi ce qui me fascine là, c'est que on n'a pas tant parlé de ça, de ce qui pour moi fait l'attraction du film, qui est ces putains de mouvements de caméra. Et pourtant vous savez que je suis pas du tout une formaliste qui s'attache à ce genre de détails et qui va plutôt être dans la subtilité de l'écriture des dialogues, de la beauté du personnage féminin. Non, là je m'en fous. Ce qui me rend ouf, c'est que vraiment il fait des panneaux et des travelling pour dynamiser le truc, tout en mettant genre, en calculant à chaque fois où va arriver le monstre, pour créer genre des tensions. Même la manière qu'il a de chorégraphier l'entrée de la gamine dans le tunnel, enfin il y a quelque chose, c'est cette caméra est le centre de l'histoire, c'est-à-dire que je n'ai jamais remarqué autant de mouvements de ma vie pour
Tu peux pas les louper, hein.
Bah non, mais en fait, c'est
que... dire que c'est pas subtil, Timorio.
Mais c'est pas subtil, mais c'est ça qui en fait un vrai divertissement. C'est-à-dire que là, en ce moment, surtout en ce moment, on sort d'une époque de blockbuster globalement plat où la caméra ne sait pas où aller et où en fait le rythme ne vient que de l'éclaboussure d'images numériques qu'on voit dans la gueule. Là, il y a aussi de l'image numérique, mais par contre, le mouvement ne vient jamais de là. L'intention ne vient jamais de là. J'adore cette scène qui est globalement un plan séquence. On parle toujours des 15 minutes du début où on va le suivre avec un mec américain qui vont passer dans cette espèce de truc sanitaire où les gens sont arrivés, puis que finalement on va suivre la goutte de sang, puis que finalement l'autre personnage va y aller. C'est tout bête. Il y a un petit détail, c'est que le personnage principal va prendre un espèce de panneau de sécurité qui va le lever, et en fait plutôt que de le glorifier, parce qu'on n'en est pas encore à ce stade-là du film, on va faire un plan panoté au-dessus d'espèces de benne là, pour juste voir le truc aller écraser le monstre. C'est-à-dire qu'on est toujours dans...
Mais c'est
le...
un truc de cartoon, c'est un truc de Bibi Pelcoyote, quoi.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est over the top. Et pour moi, c'est pour ça que le film est super jouissif, c'est que tout dans sa mise en scène est là pour ne jamais arrêter le récit. Pour moi, on est presque... Alors, j'ai pas complètement vu la série, mais je vois le concept. On est presque dans un 24 heures chrono, alors que l'histoire est censée se passer sur plusieurs années. Mais on a un espèce de tic-tac qui est tout le temps là. C'est-à-dire que même quand ils s'échappent de l'hôpital et que le van y part, t'as l'impression qu'en fait, ils ont été arrêtés depuis 20 minutes. Genre, il y a une espèce de course sans rythme, enfin, sans fin, qui me fascine dans le film.
Manon, est-ce que toi, cette question de longueur que Simon a beaucoup parlé et que là vient d'être évoquée via le rythme par Sophie, est-ce que c'est un truc qui t'avait marqué justement sur ce film? Est-ce que tu le trouves trop long? Est-ce que tu le trouves bien rythmé justement?
Je le trouve parfaitement extrêmement rythmé, de la minute 1 à la toute dernière 120. Seconde. Oui, 120, je crois qu'il fait 2 heures. Ah non, pour moi, il n'y a aucune...
Il n'y a pas de gras,
il n'y a pas de longueur, c'est charpé, quoi.
Rythmé.
Il faut dire un truc sur la mise en scène dont parlait Sophie, parce que Bong Joon-ho est un homme de goût, hein, pas juste un bon cinéaste, un homme de goût, oui. Et il se trouve qu'en 2004, il y a un petit film qui est sorti et qui lui a tapé dans l'œil, qui s'appelle La Guerre des Mondes. Et ce qui est très intéressant,
on n'avait pas encore parlé de Spielberg
si
dans ce podcast.
Alexis ne prononce pas un film...
Ah non, pas du tout, La Guerre des Mondes de John Birut, qui se passe très différemment et qui commence par une scène d'hélicoptère extrêmement impressionnante en plan séquence. Alors, c'est vraiment une pâle très très dure. Pardon, excuse-moi.
Je ne sais pas ce qui est le plus triste entre le fait que tu fasses référence à John Birut ou le fait que je sache qui c'est. Je crois que c'est ça le plus triste, c'est que je sais qui c'est. C'est un réal de film porno, vous l'aurez deviné.
Je suis ton père.
Non, mais évidemment, je parle encore de Spielberg, mais là, c'est pas de ma faute, parce que Bong Joon-ho, littéralement, remake le film pendant 5 minutes, quoi. Et non, mais c'est pas rien, c'est qu'on parle du cinéma coréen, de ses spécificités, et c'est vrai, hein, le cinéma coréen a des spécificités, à commencer, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, par les ruptures de ton et les ruptures de style et de genre. Le fait est que c'est aussi un cinéma qui sait puiser dans le cinéma occidental quelque chose qu'il va pouvoir ensuite se réapproprier. Et c'est pas que la Corée d'ailleurs, hein, on le sait, la grande époque du cinéma d'action hongkongais des années 80-90, il y avait John Woo et Choi Ark qui étaient les deux grands cinéastes, les deux étaient biberonnés au cinéma de Jean-Pierre Melville. Donc on sait qu'il y a des influences entre l'Occident et l'Asie, et là on a cette séquence où le monstre débarque et où le personnage de Song Kang-ho se met à courir au milieu de la foule, et c'est une course qui est burlesque, qui est empotée, qui est maladroite. C'est exactement le traitement que fait Steven Spielberg de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes.
Et surtout que ce personnage de mauvais père, et c'est moi aussi une de mes limites avec le film, ce personnage de mauvais père, c'est une relecture du personnage de mauvais père.
Bien sûr.
La Guerre des Mondes, me semble-t-il, en moins abouti.
Alors peut-être, mais le fait est que les références s'arrêtent pas là, parce qu'il y a un moment où il fait un gros plan sur les pattes du monstre qui avance. Bah, c'est littéralement le plan des pattes du Vélociraptor dans Jurassic Park. Mais pour moi, il y a un geste intéressant dans ces références-là qui sont très explicites. Je pense que n'importe quel spectateur peut les capter. Bah, c'est que pour Bong Joon-ho, c'est pas simplement une manière de s'inscrire dans l'héritage d'un cinéma occidental, mais plus largement que ça, c'est une manière de s'inscrire dans l'héritage d'un cinéma populaire, d'un cinéma qui peut potentiellement dépasser les frontières de son pays de production et toucher une certaine universalité. Et à l'époque, le film populaire qui a traumatisé la planète entière, c'est La Guerre des Mondes. Et bah, c'est pas anodin de reprendre des éléments de ce film-là pour dire bah, moi aussi, je m'inscris dans cette démarche. Moi aussi, je fais du cinéma populaire. Et c'est pas parce que je fais du cinéma grand public que mon cinéma n'a pas de fond, n'a pas de relief, n'a pas d'identité politique et n'a rien à dire sur la société. Bien au contraire. Donc, je pense que cette référence-là, effectivement, très frontale, pour ne pas dire par instant un poil grossière, mine de rien, elle permet de tout de suite situer le film dans le paysage cinématographique et en particulier dans le cinéma populaire un peu torturé, un peu sombre, un peu chaotique du début des années 2000.
En termes de références, je ne suis pas un grand connaisseur de Brian De Palma, mais il me semble qu'il y a quelques références de ralenti et assez évidentes.
Le côté lyrique, ça vient de De Palma.
On a parlé un peu de plein de sujets politiques, on aurait pu parler aussi de la désinformation, on aurait pu parler aussi de la manière dont il filme des décors d'urbanisme qui enferment autant les humains que les monstres, hein, cette bétonisation des banlieues, il y avait aussi des choses à évoquer, mais je crois que le temps commence à avancer. J'aurais juste une dernière question, et notamment pour Manon et Alexis, vous qui venez de découvrir le film, vous l'avez vu dans une version restaurée 4K.
Alors je précise que non, parce que moi je l'ai maté en Blu-ray, bien malheureusement. J'ai pas pu aller le voir en salle avant sa sortie. Donc,
intéressant, c'est très bien. Voilà. Intéressant, moi j'ai vu le film donc à l'époque, mm-hmm. en 2008, en 2009. Je l'ai revu à Gérard Armé il y a quelques semaines. La restauration 4K est superbe et tous les effets ont extrêmement bien vieilli, sauf un à la fin, l'incendie. Toi Manon, est-ce que tu trouves que c'est un film qui est visuellement daté?
Pas du tout. Mais du coup, j'arrivais pas trop à savoir, en voyant le film, est-ce que c'était une très très bonne restauration ou au contraire, est-ce que restauration ou pas, tu vois, ça n'aurait pas daté. Mais non, j'aurais bien eu du mal, je pense, si je ne savais pas la date de sortie du film, en le regardant, je pense que j'aurais vraiment eu du mal, tu vois, à dater, mais okay. Même limite en termes de décennies, quoi, tu vois.
Et donc toi, Alexis, qui l'a découvert dans la version d'époque, est-ce que tu trouves que sans cette restauration, il a un peu vieilli?
Alors, il a un peu vieilli d'un point de vue strictement visuel et technique.
Okay.
Je dirais pas qu'il a vieilli d'un point de vue esthétique plus largement, parce que je, en ce qui me concerne, pour rester sur la question des effets spéciaux numériques, parce qu'il faut préciser que la restauration 4K concerne pas que l'image, ils ont effectivement retouché l'intégralité des effets spéciaux. Ça avait été le cas
et heureusement parce que les interactions humains créatures étaient dégueulasses.
Ouais, c'est compliqué, mais en fait peut-être que c'est aussi mon parcours de cinéphile, parce que étant né à la fin des années 90, j'ai grandi avec des films qui avaient des effets spéciaux numériques dégueulasses, et pour moi c'était un peu la norme. Donc j'ai pas forcément le même recul que d'autres spectateurs. Par exemple, le Roi Scorpion de Dwayne Johnson dans La Momie 2, ça m'a choqué que tardivement, parce que quand j'étais gamin, en fait, j'acceptais le truc tout de suite et c'était pas un problème.
Mais c'est normal, c'est comme moi. C'est bien, tu vois, moi qui t'ai toujours reçu comme un être humain.
Oui, mais tu...
Non, c'est normal, le grand direct son époque. C'est comme j'ai revu il n'y a pas longtemps les images de mon premier jeu Spider-Man sorti en 2001, qui pour moi était un truc de fou à l'époque, et c'est juste 4 pixels qui se baladent. C'est normal.
Moi, j'ai toujours reçu comme un être humain.
Il y a un côté fondamentalement un peu aveuglant dans les technologies numériques quand tu les réceptionnes au moment de leur création.
Ça semble fou.
Et le truc, c'est que... Et ça va de pair avec les Spider-Man de Sam Raimi aussi, qui ont pris un sacré coup dans la gueule niveau effets spéciaux numériques. Là, en fait, je trouve que la pilule passe toujours plutôt bien, parce que le premier enjeu quand tu utilises des effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que quand tu filmes sur le plateau des choses qui ne sont pas encore là, c'est qu'il faut réfléchir en termes de cadrage, en termes de mouvement de caméra, en termes de montage.
En termes de photo, surtout.
Comment, en termes de photographie, bien sûr, comment sous-entendre au tournage l'existence de choses qui ne seront rajoutées qu'après. En fait, quel est le point commun entre tous les films qu'on revoit aujourd'hui en se disant waouh, c'est moche? C'est des films dont les réalisateurs ou réalisatrices ne se sont jamais posé la question de cette créature numérique qui n'existe pas encore, comment je peux dès le tournage la faire exister avec ma caméra. Bong Joon-ho s'est posé cette question là et de fait, à quelques plans près, moi je trouve que la créature fonctionne toujours plutôt bien, parce que je sens que la caméra accompagne cette créature, lui donne un mouvement, lui donne une vie, et du coup j'accepte le fait que les textures soient un peu datées, parce que la mise en scène m'emporte dans le truc, quoi.
On a beaucoup parlé de plein de choses, je pense qu'on va pouvoir bientôt s'arrêter. C'est dommage qu'on n'ait pas mentionné un peu le casting, et notamment Song Kang-ho, qui est assez monstrueux. Mais bref, The Host qui ressort en salle, un film extrêmement riche sur la forme et sur le fond. On vous conseille d'aller le voir en salle. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Microbe dans du formol ou Simon Rio dans un jacuzzi? Je sais pas, j'avais pas d'idée, mais dites-moi dans les commentaires.
C'est deux choses qui décrivent le même événement.
C'est juste une question de perspective avec la loupe.
Écoutez, j'avais pas d'idée, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, de notre analyse et de ma blague de fin. En attendant, pour rallonger le plaisir, parce qu'on sait que vous allez en redemander, vous êtes assez gourmand, nous continuons aujourd'hui avec notre nouvelle chronique qu'on essaie de faire. Chaque mardi, l'un d'entre nous essaye de faire une déclaration d'amour à un film parfois daté, parfois détesté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est les deux. Aujourd'hui, Sophie veut nous parler de Jennifer's Body de Karin Kusama, sorti en 2009.
T'es complètement folle, tu tues des gens.
Non, je tue que les mecs. Tu as peur.
Je croyais que tu tuais que les mecs.
Pourquoi se limiter?
S'il le faut, j'hésiterai pas à t'achever.
Ouais. Commence déjà par te mettre au sport.
Sophie, donc vas-y, raconte-nous.
Alors, c'est un film qui m'est très cher, et c'était cool d'en parler après un film de monstre, parce que Jennifer's Body, contrairement à ce que nous avaient vendu les bandes annonces, les campagnes marketing à l'époque, n'est pas qu'un film de monstre. Enfin, c'est vraiment un film de monstre, c'est pas juste une espèce de teenage comedy sexy d'horreur avec Megan Fox en petite culotte, c'est pas ça. C'est quoi Jennifer's Body? C'est un film de Karin Kusama, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui a malheureusement subi en 2009 les foudres de la critique à propos de son film, en disant que c'était vulgaire, tape à l'œil, mal réalisé, mal joué, enfin vraiment, le film est encore aujourd'hui très 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 mal noté sur Rotten Tomatoes, mais il y a quelques années, il s'est passé un truc. C'est passé que les gens, après le mouvement MeToo, se sont dit « Tiens, si on regardait ce féminin dans le cinéma d'horreur d'une nouvelle manière ?» Et c'est notamment Constance Grady, de Vox, qui a dit qu'en fait, ce film, on ne pouvait le prendre qu'avec une espèce de recul sur le mouvement MeToo. Parce que les gens se disent « Bon, Jennifer's Body, c'est juste Megan Fox qui se transforme en succube et qui, en fait, va bouffer des mecs. » Non. Ce qui se passe dans Jennifer's Body, c'est que Megan Fox, qui est une espèce de petite pain beige de lycée américain, qui est l'espèce de pom-pom girl super chouette du lycée que toutes les nanas veulent être.
Qui est la meuf populaire qui sait qu'elle est populaire.
C'est ça. Mais qui, malgré tout, va tomber dans une espèce de pas de perversion, mais elle va subir quelque chose que beaucoup de nanas des années 2010 vont subir, à savoir être une fangirl qui se fait abuser, entre guillemets, par un petit groupe de rock local. Sauf que ces mecs-là pensent que, comme toutes les bonnes filles de bonne famille, en fait, elle est vierge et qu'en la sacrifiant, ils vont devenir le plus grand groupe de rock du monde. C'est le postulat de base. Sauf qu'en fait, elle se transforme en cette espèce de monstre qui se met à bouffer des hommes. Pour moi, de quoi ça parle, Jennifer's Body? Parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, ça parle de la création du mal, de comment le mal est engendré par le mal. Parce qu'en fait, on va se dire que c'est un film qui traite le féminin monstrueux, mais en fait, techniquement, c'est pas elle le monstre. Hein. Les vrais monstres, c'est le groupe de rock de base, qu'on oublie assez rapidement. Mais en fait, c'est eux qui l'ont transformé en monstre. Et elle est devenue ça parce que personne ne l'a écouté, personne ne l'a cru. Et ce film me passionne parce qu'il y a une espèce de double facette de l'Amérique. Il y a ce truc de comment tu dois être une jeune femme dans les années 2010, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te comporter et comment, en fait, tu sors très vite du cadre. Comment tu es considérée comme monstrueuse et en fait, personne cherche à savoir pourquoi. Et donc, il y a toute cette dualité avec Amanda Seyfried qui, elle, au contraire, essaye d'être la good girl, mais qui, en fait, n'y arrive pas non plus parce que elle non plus, on l'écoute pas parce que non, elle non plus, elle n'est pas complètement dans les codes. Elle est genre, pour le coup, cette girl next door, mais elle est un peu boutonneuse. Elle n'a pas vraiment genre cette espèce de confiance qu'on veut accorder aux jeunes filles qu'on aime. Et donc, au final, personne ne l'écoute. Et au final, que nous dit le film ? Bah, qu'aucune fille n'est écoutée. Et moi, ça me fascine qu'en 2009, on soit déjà dans un discours post-MeToo. Ce qui a été hyper intéressant dans pas mal d'articles, aujourd'hui, c'est... Enfin, en fait, pourquoi on en a reparlé ? C'est au moment de la sortie de Promising Young Woman. Où on s'est dit, putain, mais en fait, c'est un peu le même film. C'est un peu cette espèce de bonbon pop qu'on présente et qu'on tourne, qu'on réalise d'une manière super accessible parce que son public, c'est quoi ? Bah, c'est les jeunes filles. Et c'est les jeunes filles à qui on dit, bah, écoute, méfie-toi. Méfie-toi parce qu'en fait, ce qu'on attend de toi, bah, en fait, ça va te détruire. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la fangirl. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la gentille fille. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être la biatch du lycée. Mais en fait, à aucun moment, on arrive à avoir une vraie personnalité incarnée dans les personnages de Jennifer's Body, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Karine Kusama, elle va réaliser un film qui est pour moi l'un des petits films d'horreur indé les mieux écrits de ces dernières années, qui s'appelle The Invitation, et qui, pareil, est en soi, en fait, elle a vraiment galéré parce que Jennifer's Body, ça s'est croûté, et Anne Flux, ça s'est croûté aussi.
Ça, pour le coup, est un peu plus logique.
Mais c'est juste que cette meuf-là n'a plus de budget parce que, soi-disant, elle avait fait deux fours. Et donc, The Invitation, ça coûte, si je dis pas de conneries, genre 2 millions de dollars quasi autoproduit. Enfin, c'est vraiment... c'est un tout, tout petit budget. Et en fait, pourtant, ça parle de la même chose. Ça parle de méfie-toi des apparences. Sois vraiment qui tu dois être. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans Jennifer's Body. C'est que, au final, ce film, ça a l'image de Megan Fox... Elle a fait ce film parce qu'elle avait envie d'avoir un personnage différent et personne n'a voulu regarder le film parce que tout le monde pensait qu'elle serait exactement ce qu'elle était dans les autres films et donc personne ne l'a écouté. Ce qui est au final son personnage dans le film. Tout le monde pensait que c'était juste une connasse parce qu'elle a toujours été un peu connasse et personne n'a cherché à savoir pourquoi elle l'était devenue. Donc en fait, c'est un film vraiment plus intelligent et il ne faut jamais se dire « Ok, la forme est un peu simpliste » parce qu'en fait, cette forme-là, elle est au propos. Enfin, elle sert son propos un peu comme Promising Young Woman, ou comme assez récemment l'avait fait Moxie d'Amy Poehler, qui est un teenage girl, parce que ça s'adresse aux teenage girls. Jennifer's Body, c'est un vrai film de monstre avec des effets gore vraiment sympas, vraiment rigolos.
La langue qui brûle.
La langue qui brûle. Mais c'est un film aussi qui te dit comment... en fait, là, on a déjà utilisé ce terme dans l'émission que vous venez d'écouter. Mais c'est un film sur la sororité contrariée, parce qu'au final, on a tellement mis les jeunes femmes dans des cases que même entre elles, si elles appartiennent plus complètement à la même typologie sociale, elles peuvent même plus s'écouter entre elles. Bref, redonner une chance à Jennifer's Body, il est dispo sur Disney+. Donc en plus, vous pouvez le voir sur...
Quand vos enfants dorment.
C'est un chou ironique de le voir sur Disney+, bah, pardon.
Bah, c'est parce que c'est un film Fox.
Je sais.
Mais moi, je l'ai revu grâce à ça, donc tu vois, genre, je suis plutôt contente.
Ah oui, grave. Alors, moi j'aurais une question super sincère, parce que j'ai vu le film à sa sortie en 2009, et je ne l'ai pas revu depuis. Donc vraiment, tu vois, je n'ai pas du tout la prétention de te dire « Oui, mon souvenir extrêmement aiguisé de cette œuvre m'amène à te questionner. » Non, par contre, j'ai deux problèmes, limites, questions. Le premier, c'est que dans mon souvenir, qui est lointain, indiscutablement, je l'avais trouvé très moche. Ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième truc, le film est écrit pas par n'importe qui, par Diablo Cody. Diablo Cody, qui a fait donc Juno, qui a fait Young Adult, qui a fait Tully...
qui est, moi, une scénariste qui, à un moment, a été perçue comme la nouvelle sensation un peu rock'n'roll, qui, je pense, est une des plus violentes et terribles réactionnaires américaines. Vraiment.
Moi, j'adore Tully, par exemple.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais, vraiment, premier degré, j'adore
Tully. Voilà, mais attends, et donc, justement, sans rentrer dans ce débat-là, et parce que j'ai pas du tout envie d'attaquer le film que tu veux défendre, justement, je serais intéressé à t'entendre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'est pas une horrible reconduction de tous nos clichés masculinistes. Et vraiment, pour moi, Diablo Cody, c'est une grosse mascu avec des tatouages, quoi.
Ah, pour moi, pas du tout, parce que autant Juno a plutôt mal vieilli, autant Tully est un film que je trouve assez brillant sur le postpartum et sur tout ça, que je suis premier degré, j'aime vraiment beaucoup ce film. Je trouve que c'est une petite surprise qu'on n'avait pas vu venir. Je suis un peu moins fan de Young Adult, mais je le trouve pas particulièrement réac, je le trouve juste un peu raté. En fait, elle a donné une interview suite au nouveau succès du film, suite aux articles sur sa réhabilitation, et elle dit que...
Et je dis bien ça en sachant pas où, tu vois, c'est pas du tout pour piéger, je suis très curieux, quoi.
Vraiment, elle a dit un truc que je trouve super intéressant pour le coup, qui dit qu'elle révèle que la production voulait attirer les hommes qui aiment Megan Fox, mais qu'en fait, le film a été pensé pour les femmes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce qu'en effet, pour moi, le film est... D'accord, il n'est pas particulièrement beau, mais parce que techniquement, il est filmé volontairement comme un téléfilm Disney Channel. Et en fait, que représente le téléfilm Disney Channel ? C'est les codes qu'on donnait aux jeunes filles. Et donc là, on vient complètement bousiller les codes. C'est un film qui se sert des limites de son code, de son genre, à savoir de la teenage comédie un peu débile, pour en fait complètement les détruire. En tout cas, elle va choisir Karine Kusama, des archétypes de personnages pour complètement les détruire, comme elle a choisi un archétype de cinéma pour complètement le détruire de l'intérieur. Et en fait, quand on voit rétrospectivement avec The Invitation, on sent qu'elle peut, de manière très minime, mais un peu faire comme Verhoeven, à savoir prendre un genre pour le détruire. Et pour moi, c'est pour ça que c'est une cinéaste qui m'intéresse, c'est parce qu'elle a été, et encore une fois, je prends des grosses pincettes, je fais pas du tout une vraie comparaison, mais un peu comme l'a été Showgirls à sa sortie, en mode bah non, mais c'est hyper vulgaire, c'est pas du tout ce qu'on voulait voir. En fait, les gens n'ont pas du tout vu Jennifer's Body comme il a été pensé, il a été vu comme il a été marketé. Et c'est pour ça que je tiens à le réhabiliter, c'est pour ça que je suis très contente que, après Promising Young Woman, il y ait une espèce de réenvolée en mode ah putain. Mais en effet, le film dit pas du tout bonjour, voici Megan Fox, je vais la mettre en culotte, je vais la mettre en maillot, je vais la mettre en train de coucher avec des mecs pour les manger et en faire un espèce de personnage démoniaque. Non, je vais en faire un personnage brisé par les propres codes de la féminité de l'époque, à savoir si t'es la meuf qui se prétend vierge pour séduire des groupes de rock, mais en fait, c'est que t'es vraiment la nana la plus cool du lycée. Genre, en 2009, avoir déjà autant de strates de réflexion sur la féminité adolescente, c'est déjà super intéressant. Et donc, en effet, je suis d'accord, le film est plutôt, ou en tout cas, très banal. Mais en fait, un peu comme d'autres films, il se sert de cette forme pour le détruire. Et ça, je trouve ça cool, et notamment toute la scène à la piscine à la fin. Pareil, ça explose les codes, c'est plus du tout filmé comme ça, c'est vraiment le début qui est vraiment filmé comme American Pie. Mais je pense que c'est volontaire.
Merci beaucoup Sophie, vous aussi redonnez une chance à Jennifer's Body de Karine Kusama. Merci à vous quatre, on espère qu'on vous a donné envie d'aller voir The Host en salle. En attendant, on vous retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans trucage. On parlera d'ours cocaïnoman et non, je ne parle pas de Simon Rio. En attendant, bye bye les amis.
Je ne suis pas un ours.
Et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.